Initialement, c'était pour des raisons sécuritaires, donc pour contrer la présence de l'opposition armée des Hutus installée dans l'est du Congo et dont le Rwanda craignait qu'il ne s'organise à partir de la RDC pour reconquérir le pouvoir au Rwanda. La présence est faite d'abord de manière beaucoup plus directe entre 1996 et 2002. Officiellement, l'armée rwandaise s'est retirée en 2002, mais la politique avait changé et s'est muée en politique de soutien à des rébellions congolaises contre le régime de Kinshasa. L'autre volet, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Donc, dans un contexte d'affaiblissement de l'État congolais qui n'est pas en mesure de garantir l'intégrité territoriale ni la souveraineté économique, les ressources du Kivu, en fait, trouve un nouveau circuit en fait de sortie vers essentiellement l'Ouganda et le Rwanda. Donc le Rwanda tire des intérêts évidents économiques de cette ingérence en RDC.
Comment réagit le Rwanda face à ces accusations?
La diplomatie rwandaise s'emploie à nier tout appui au M23 et au sein du Conseil de sécurité, il est apparu que le Rwanda a essayé de bloquer la résolution visant à établir de nouvelles sanctions contre les dirigeants du M23. Notamment, il y a une réunion récente du Conseil qui devrait appeler en fait au démantèlement des différents groupes armés, y compris le M23. C'est d'ailleurs l'objet de la brigade d'intervention que l'ONU a constituée pour l'Est de la RDC.
Kigali se dit victime d'attaques de la RDC. Le Rwanda peut-il réagir?
Le Rwanda aujourd'hui n'a plus les mains libres comme par le passé. Ça, c'est évident. Et Paul Kagame se sert un peu de la tension régionale et de la question du Kivu comme une manière de briser l'isolement dans lequel il est de plus en plus. Il a moins de marge de manœuvre aujourd'hui du fait un peu du tiédissement du soutien dont il disposait jusque-là. On voit mal le Rwanda remonter de manière directe en première ligne pour se confronter en fait avec les Congolais ou les Tanzaniens sur le territoire congolais. Je ne crois pas à une confrontation directe sur le terrain parce que le contexte est différent et encadré plus que jamais par la communauté internationale aujourd'hui.
Que faudrait-il faire pour rétablir la paix dans cette région?
On peut distinguer deux clés possibles. L'une repose sur effectivement la consolidation de l'État congolais d'abord. Donc une partie de la crise dans la région des Grands Lacs est liée à l'affaiblissement et à l'effondrement de l'État en RDC. Donc l'incapacité de l'État à défendre la sécurité des personnes et des biens et puis la souveraineté sur l'économie et sur le territoire a favorisé évidemment tout le développement d'une économie criminelle illicite sur laquelle se sont greffés en fait tous les pays voisins du Rwanda à l'Ouganda qui avaient participé un certain temps à l'exploitation illégale des ressources. L'autre volet de la crise, c'est évidemment le règlement des conséquences du génocide de 1994. L'avènement au pouvoir de Paul Kagame trouve sa légitimité historique ou son discours de légitimation dans la lutte contre ceux qui ont perpétré le génocide. Mais au bout de plus d'une décennie maintenant de pouvoir, il y a une usure d'un pouvoir très monolithique et assez autoritaire au Rwanda. Une des dimensions importantes en fait du retour à la paix dans la région, c'est sans doute la démocratisation du Rwanda, comme de plus en plus d'observateurs ou d'acteurs régionaux le préconisent, sans doute un dialogue entre le pouvoir rwandais actuel avec une partie de ses opposants. Bien évidemment pas les personnes qui ont directement participé au génocide de 1994, mais tous les opposants à qui on ne peut pas reprocher une participation directe aux événements de 1994.